Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Musique.
France Musique. Les grands entretiens, Laurent Villarem.
Je suis Willem Lachoumia et je suis né le 2 mai 1974 à Lyon. Je suis pianiste.
Après les Mureaux, vous allez au Conservatoire National de Région de Lyon et c'est Rosemary Cabestany qui vous a préparé gratuitement, c'est ça ?
Oui, c'est juste après le bac, mes parents déménagent à Lyon.
Après votre rébellion ?
Après ma rébellion, avec le bac quand même, avec une mention bien, je crois. Je sais plus. Et du coup, mes parents sont prêts à revenir à Lyon, vont déménager. Et c'est à ce moment-là que je décide de me lancer dans l'aventure musicale. Il y a deux établissements dans la région. Il y a en effet le conservatoire à l'époque qui s'appelait National de Région, CNR, maintenant c'est CRR de Lyon. Mais il y avait aussi l'ENM, l'École Nationale de Musique à Villeurbanne, c'est juste aux portes de Lyon. Et du coup, j'en parle avec Rosemary Cabestany. Donc, il y a un morceau imposé au CRR. Il n'y en a pas à Villeurbanne. Du coup, je récupère le morceau imposé, c'est L'absence et le retour Beethoven Sonata. Et Rosemary me dit, je vais te préparer. Du coup, je suis resté chez elle. Et j'ai déchiffré de la musique aussi.
Vous étiez vraiment son chouchou, hein?
Faut croire, ouais. J'ai fait la cuisine aussi, j'ai aidé sa fille à faire les mathématiques.
Oh,
d'accord. Donc voilà. Donc voilà. Et j'ai déchiffré de la musique, je me souviens, elle avait une grande maison à l'époque, sur 4 étages, je crois. Et puis je déchiffrais les 20 regards. Alors du coup, j'écoutais de Messiaen. Du coup, elle écoutait, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bref, voilà. Donc elle m'a préparé, ouais.
Et ça a été, vous avez été admis?
Admis à Lyon, mais pas à Villeurbanne. Mais j'ai fait une grosse bévue, j'ai fait une bêtise, parce que je suis arrivé à Villeurbanne avec le morceau imposé de Lyon et j'ai joué. Et alors ils m'ont dit, mais vous tentez un autre établissement? Et moi, naïvement, j'ai dit, oui, je tente le conservatoire, on verra bien lequel des deux de moi. Et du coup, ils m'ont pas pris à Villeurbanne.
Vous étiez déjà ambitieux, le fait d'être admis au CNR de Lyon ?
Non, ça s'est dessiné au fur et à mesure. C'est plutôt les rencontres, les curiosités qui font que je prends des chemins, avec des risques évidemment, puisque je n'ai pas une carrière, on va dire, conventionnelle. Mais bon, je me dis que je prends le risque. À l'époque, je faisais le piano en amateur, donc j'avais plutôt une technique un peu faible. Voilà, je faisais ce que je pouvais en préparant. Voilà. Donc du coup, j'ai passé mon DFE la première année.
Donc vous aviez un talent exceptionnel.
Un talent exceptionnel, je sais pas, je m'en rends pas compte à l'époque. Parce que j'étais aussi à la fac, à la faculté, à l'université Lyon 2, pour rassurer un peu mes parents, mon avenir. J'étais plutôt à côté, peut-être que ça m'a préservé quelque part.
Et vous étiez quel genre de jeune homme, sérieux, ou vous alliez en discothèque, ou quand vous étiez très sérieux?
Non, de discothèque, je suis allé un peu plus tard. Mais non, j'étais assez sérieux, parce que quand je suis arrivé au CRR, évidemment, j'avais toujours pas fait de solfège, mais je me souviens avoir travaillé, Sonate de Bartok, Sospiro de Liszt, Gnomenreigen de Liszt, Honegger, des choses comme ça. Et du coup, j'avais du retard. J'avais jamais pris de dictée de ma vie. Donc je m'enregistrais les dictées et tous les matins, je faisais des dictées pour rattraper le retard. J'apprenais la théorie aussi, parce que je savais pas ce qu'était une cadence parfaite. Moi, je jouais simplement, voilà, ça, je dis, oui, et après. Donc voilà, il y a tout l'aspect théorique que j'ai dû rattraper, plus les cours à la fac, enfin voilà. Ça a été 2 années bien chargées.
Rétrospectivement, comment vous expliquez cette force de travail ?
Il y a la passion de la musique et le fait de savoir enfin où est-ce qu'on voulait aller, où est-ce que je voulais aller. Avant, on m'avait plus ou moins guidé. On m'avait dit, il faut que tu fasses les prépas, non, il faut que tu fasses ça. T'es bon en mécanique, t'es bon en maths, t'es bon en machin.
On vous imposait des choses.
Je pense que c'est l'âge aussi où on ne sait pas trop, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis après, le monde musical, c'était un monde qui m'était inconnu. Moi, j'étais en vase clos autour de Rosemary Cabestany, connaissais plein de choses, enfin voilà. Mais le monde musical, pour moi, c'était l'inconnu.
Vous aviez d'autres passions que la musique à cet âge-là? Ou la musique prenait toute la place?
La musique prenait toute la place. Plus c'était surtout le retard à rattraper. Tout ce qu'il fallait engranger, l'harmonie. Bah, ça a été difficile quand même.
Vous faites le concours d'entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Et j'ai lu qu'il y avait 120 candidats et ils n'en ont gardé que 7, dont vous.
Pour le premier tour, oui. Ouais. Et le deuxième, on était 4. Et à l'époque, le concours d'entrée à Lyon était au mois septembre-octobre et celui de Paris était plus tard. Du coup, je suis rentré à Lyon, mais je n'ai jamais passé celui de Paris.
Vous auriez voulu ?
Pas du tout. Non, parce que j'ai trouvé une espèce de famille aussi au Conservatoire de Lyon. C'était un peu la même ambiance que la faculté.
Comment ça se passe au Conservatoire National Supérieur de Lyon ? Vous êtes parmi l'élite ?
Oui, on nous a réunis dans la salle Varès pour nous dire qu'on faisait partie de l'élite. Mais en effet, quand on est 120 et qu'on se retrouve plus que 4 à la fin, c'est clair qu'il y a, il y a une sacrée sélection. Mais moi, en parallèle, je continue la faculté de musicologie à l'université Lyon 2 pour faire plaisir à mes parents qui sont persuadés que je vais préparer. Tout ça va aboutir au CAPES ou à l'agrégation
prof de musique.
Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est pas exactement l'envie de me retrouver dans un collège ou au mieux dans un lycée. À l'époque, il y avait le diplôme d'État en candidat libre. Donc, on s'est un peu jeté dessus. C'était un peu la... Enfin, une vraie roue de secours et pas le CAPES, en tout cas.
Vos parents, à quel âge ils ont compris que vous étiez, entre guillemets, hors d'atteinte, vous alliez faire carrière ? C'est arrivé assez tard ?
Assez tard, très tard. Et je ne sais pas s'ils ont compris encore.
Est-ce que vous avez apprécié vos années de conservatoire supérieur ?
Oui, c'est un bain professionnalisant, on va dire. Et à la fois, c'est là que j'ai rencontré les amitiés fortes, c'est à ce moment-là. Il y a toute une vie au conservatoire, parce que, évidemment, j'ai un piano à la maison, mais bon, on se retrouve à travailler, les salles sont ouvertes jusqu'à 23h, c'est ouvert le samedi et le dimanche. Il y a énormément de fêtes qui sont organisées, donc c'est voilà des rodages, tout est prétexte à faire un rodage le dimanche et faire une fête derrière, donc c'est des belles années. Hein.
Est-ce que vous étiez singulier parmi les autres élèves? Est-ce que vous aimiez la musique contemporaine déjà? C'était déjà votre priorité?
Priorité, non, mais je participais beaucoup à ce qu'on appelait l'atelier du 20e avec Fabrice Pierre. Donc j'ai fait cette option. Donc c'est là que j'ai rencontré Jonathan Harvey. Il y a Peter Hudvösch qui est venu, enfin voilà.
Des compositeurs vivants? Et c'est comment un compositeur vivant?
Ça peut être très drôle. Harvey était très gentil. Il m'a même donné une bande magnétique de la pièce que je jouais. Il y a énormément de musique d'ensemble. C'est là que on l'avait fait pli selon pli. On a fait plein de choses. C'était vraiment, ou encore du baraquet, chant après chant, avec 6 groupes de percussion. Enfin, non, c'était un atelier où, on faisait autre chose que le répertoire. Donc ça, oui, donc j'étais déjà un peu catalogué. Les compositeurs venaient me voir avec leurs partitions.
Et si on vous avait proposé de préparer les 32 sonates de Beethoven tout seul, qu'est-ce que vous auriez fait?
J'aurais demandé un petit peu de temps. J'étais chez Eric Heitzig et lui les donnait. Je me souviens, il venait avec les articles, il jouait ça en Espagne, il est pas venu pendant une semaine, il n'était pas là ou 15 jours. Et il est arrivé tout fier avec ses articles, comme un enfant qui joue pour la première fois en public. C'était assez émouvant. Il dit, j'ai joué les 32 sonates de Beethoven. En je sais pas combien de concerts, c'est fou. J'avais une sonate fétiche que j'ai jouée pour mon prix. Quand j'avais entendu la version de Arao, je m'étais dit, c'est celle-ci que je veux jouer.
Laquelle?
La 13e, Quasi una fantasia.
Vous sauriez expliquer pourquoi?
Je pense que c'est la forme, avec du recul. Cette idée de concevoir la sonate non plus comme 4 mouvements ou 3 mouvements séparés, qui ont évidemment un lien entre elles, mais où là, vraiment, il y a l'idée de partir d'un point et d'arriver jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a la reprise du mouvement lent à un moment. Et du coup, cette forme qui se brise, mais qui à la fois unifie, c'est marqué sur la partition, en quasi una fantasia, comme une fantaisie. Du coup, je pense que c'est ça qui m'a plu, le fait de libérer la forme et à la fois de structurer tout ça, de faire un tout.
Maintenant, vous avez 30 ans, nous sommes en 2004. Nous avons remarqué au cours de vos grands entretiens que vous aviez un talent souvent exceptionnel, mais que vous aviez aussi une grande force de travail. Et vous avez obtenu les prix au concours de piano Xavier Monsalvaje à Gérone en 2004. Et en 2006, vous avez remporté le concours de piano d'Orléans. Et c'est là où, entre guillemets, votre carrière a vraiment été lancée?
Tout à fait. Alors, à la base, je ne devais pas passer de concours internationaux. Ça m'intéressait pas. Et puis, je me suis dit, bon, je vais arriver à l'âge limite. J'aimerais pas arriver dans quelques années en me disant, peut-être que j'aurais dû essayer. Donc, du coup, j'en ai essayé un. Entre guillemets, un petit, mais là, pour le coup, il y avait énormément d'œuvres imposées. Et pour le concours Monsalvaje, il y avait des œuvres un peu difficiles, un peu... comme dirait François Stina, pas sexy. le mode de valeur et d'intensité de Messiaen, du sérialisme intégral...
Ça peut être sexy pour certains.
Ça peut être sexy pour certains. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont désistés à cause de ça. Et il y avait une étude de Ligeti aussi entre là. Donc ça, ça a été vraiment les deux œuvres un peu vraiment difficiles. Une étude de Debussy au choix. Variation opus 27 de Webern. C'était le premier tour. Et le deuxième tour était libre et il fallait jouer du Montsalvatge. Et du coup, il y avait au choix, mais il n'y a pas grand chose, hein, pour piano seul. La sonatine pour Yvette, qui détonne un peu par rapport à Mode de valeur et d'intensité.
Oui.
Oui, parce que là, sur le final, il y a une citation de À vous dirais-je maman. Enfin, voilà, on est plus du côté, pour le coup, du Brésil ou d'Amérique du Sud. J'ai remporté le deuxième prix et au jury, il y avait François Stina du concours d'Orléans. Et je devais me présenter au concours d'Orléans en 2000, la session d'avant que Francesco Schlimmé a gagné.
Quatre.
C'était quatre, oui. Entre-temps, j'ai eu un panari. Du coup, j'avais fait des économies pour le voyage, l'hébergement, et je me suis acheté un ordinateur, je crois. Et c'est François Stina qui m'a vu à la fin du concours et qui, avec son caractère bien affirmé et bien trempé, j'espère qu'elle n'écoutera pas, elle m'en voudra pas, qui m'a dit « J'ai votre photo chez moi ». Alors du coup, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit « Comment ça ? Vous n'êtes pas venu à mon concours ?» Aucun Français ne se présente à mon concours. Et alors, du coup, je lui ai dit, ben, j'ai eu un panari. Alors, elle m'a dit, je vous crois pas. Je lui ai montré mes doigts, parce que j'ai quand même le troisième doigt qui est un peu plus déformé par celui de la main droite, par rapport à celui de la main gauche. Donc, elle m'a dit, ouais. Vous venez? Je lui ai dit, ben, je sais pas. Moi, je suis à la hauteur de votre concours. Il m'a dit, ben, tentez. Et du coup, je me suis inscrit, à la session suivante, qui était en 2006.
Et vous avez remporté 5 prix.
Oui.
Oui,
le premier. Mais pareil, c'est il y a une part d'inconscience quand même, parce que donc là on n'était pas très nombreux à Girona, et là je me suis dit quand même là il va y avoir du monde, parce que j'avais entendu les anciens lauréats. Je m'étais pas vraiment confronté aux autres pianistes spécialistes de la musique contemporaine du globe, on va dire. Donc j'étais un peu anxieux quand même. Quand je suis arrivé, mon seul souci, c'était de ne pas être ridicule. Qu'on me dise pas à la fin en disant, mais voyons, monsieur, vous vous rendez pas compte? J'avais peur qu'on me dise ça. C'est tout. C'était, voilà. Quand je suis arrivé, il neigeait, je me souviens. Et j'avais commencé
à Orléans, c'est la ville de votre père, d'ailleurs.
Oui.
Vous avez raconté
c'est
ça.
C'est lui qui m'a dit ça après.
Oui.
Il m'a dit ça. Ouais. Avant de partir, j'ai même pas rodé le programme, je crois. Et c'est plusieurs pianistes qui m'ont dit, mais t'es pas allé prendre un cours? Avec quelqu'un pour préparer le programme. Et là, j'ai commencé à me décomposer en me disant, bah non. Il fallait. Ah bah oui, il aurait fallu aller voir Françoise Stina, prendre un cours avec elle. Et j'étais là, ah bon, et ça se fait. Du coup, voilà, complètement inconscient. Un peu comme le concours d'entrée à Lyon. Enfin, un peu moins inconscient. En arrivant, évidemment, j'apprends que Françoise Stina ne fait pas partie du jury. Donc voilà, il n'y avait pas moyen d'avoir éventuellement une voix comme ça.
Parce qu'elle avait votre photo chez elle.
Mais elle avait la photo chez moi. Je pense qu'elle collectionnait les photos des candidats français. Parce qu'à chaque fois, elle avait un étranger. Et elle disait, mais il n'y a pas de Français qui gagne ce concours, c'est terrible. Du coup, je pense qu'elle était contente quelque part. Elle s'est dit, ah, enfin, je fais un concours en France et enfin un Français qui gagne.
Et qui était le président du jury ?
À l'époque, c'était Monsieur de Coust.
Moi, j'ai l'impression que ce prix a vraiment lancé votre carrière. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi ?
Oui, disons que c'est un concours un peu particulier. Souvent, quand on, par exemple, à Girona, j'ai gagné le deuxième prix, on m'a dit « vous viendrez jouer », et puis j'ai jamais joué. Voilà. Et tandis que là, dans le cadre du concours, on s'occupe du lauréat pendant 2 ans. Il y a vraiment une espèce de coaching, il y a des concerts de prévus, c'est là que je suis allé en Asie, que je suis allé en Amérique du Sud. Il y a un premier disque qui est commercialisé, qui sont faits dans des conditions professionnelles. Il y a une tournée en région centre où on joue 10 fois le même programme. Donc là, on est confronté au fait d'aller sur scène tous les 2 soirs et de jouer le même programme. Donc c'est quand même, c'est assez galvanisant parce qu'on avance comme ça sur la tournée. C'est une sensation complètement différente, le fait de rejouer plusieurs fois le programme d'affilée. C'est assez étonnant.
Vous faites d'ailleurs régulièrement de nos jours ?
Oui, mais moi, je joue souvent des programmes différents. Hein. J'ai un peu cette particularité d'avoir beaucoup de programmes différents. Mais ça, c'est dû à la création aussi, qui fait que, voilà, c'est plus du tout les mêmes choses.
Et vous avez fait paraître un disque avec Harvey, Jodlowski, c'est ça ? Ça a été important pour vous, ce premier disque ?
C'est mon premier disque solo. Qui a en plus a été couronné par, à l'époque, ça s'appelait le choc du monde de la musique. Donc ça a été un choc. Du coup, j'étais là, ah ben dis donc. Donc voilà, on rentre vraiment dans le vif du sujet.
Et vous n'avez pas eu peur d'être caractérisé comme un pianiste de musique contemporaine à ce moment-là, ou vous avez vraiment foncé dedans ?
Non, j'ai pas eu peur parce que j'étais déjà un peu catalogué comme ça. Et à la fois, je faisais. C'est pas quelque chose qui me fait peur, même si on me catalogue, je dis, bah tant pis. Une fois, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Il y a un programmateur. On a proposé mon nom pour un concert et le programmateur a entendu uniquement le deuxième disque que j'avais sorti, qui a dit, mais il fait que de la musique brésilienne, lui, voyons, il fait pas de musique contemporaine. Donc voilà. Mais non, ça m'a pas spécialement, en tout cas. Après, j'essaie d'équilibrer mes programmes pour plus dans une idée de donner du sens que de faire des programmes thématiques ou historiques. C'est pas trop ce qui m'intéresse. Ça peut être intéressant, mais...
Vous préférez quel genre de programme ?
J'essaie de trouver un fil rouge, en tout cas. L'idée, c'est ça.
Les familles,
ça peut changer.
Les familles dont vous parliez, Villa-Lobos et Chopin, un petit peu créer ces liens-là ?
On peut, oui, tout à fait. J'ai pas fait encore.
Ah. C'est l'idée.
Thank you. extrait de la première suite d'Aprolet des bébés d'Aitor Villalobos pour achever le troisième volet des grands entretiens de Willem Lachumia. Dans le prochain épisode, le pianiste évoquera notamment son amour pour la musique du compositeur brésilien. Une série proposée par Laurent Villarem, réalisée par Philippe Petit, disponible en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.